L'invitée de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Geneviève Piron, elle est chercheuse indépendante et spécialiste du monde russe, Béatrice.
Bonjour Geneviève Piron.
Bonjour.
Merci d'être sur Radio Lac ce matin. L'élection présidentielle russe débute donc aujourd'hui. Un seul candidat, Vladimir Poutine. Est-ce qu'on peut d'ailleurs vraiment parler d'élection ?
Ce sont des élections, oui. Enfin, c'est plutôt un simulacre d'élection et ce n'est pas le seul candidat. Il y a plusieurs candidats, mais c'est des candidats fantoches en réalité.
Un scrutin qui est dans un contexte très particulier, celui de l'opération spéciale, comme on dit en Russie, qui concerne l'Ukraine. Cette guerre en Ukraine, d'ailleurs, c'est un sujet de cette élection ou pas du tout ?
C'est un sujet de l'élection dans la mesure où, en fait, cette élection, elle est construite sur cette rhétorique musclée, comme quoi on va pas se laisser avoir, on va leur casser la gueule, on est dans un danger existentiel, donc il faut faire front. C'est-à-dire qu'elle est là par-dessous. Et puis, évidemment, elle pose aussi énormément de problèmes, puisqu'il va y avoir des personnes dans les territoires occupés qui sont appelées à voter, alors qu'ils ont un passeport ukrainien et que c'est totalement illégal.
Est-ce que ça pourrait influencer le vote d'une manière ou d'une autre ?
Non. Le vote, de toute façon, il est connu d'avance. On estime à 80% l'élection de Vladimir Poutine. Toutes les forces qui auraient pu s'opposer à son élection ont été muselées. Je ne sais pas si vous avez entendu que hier ou avant-hier, un des responsables de l'état-major de Navalny a été très violemment agressé en Lituanie. Il y a eu des signaux. Il y a quelqu'un d'autre qui a été agressé.
Ça montre une certaine fébrilité quand même, ça.
C'est très bizarre cette façon dont en fait Vladimir Poutine extermine ses opposants comme s'il avait peur d'eux. Mais en réalité, ce qui se passe aussi, c'est qu'il a démultiplié les forces de l'ordre, c'est-à-dire qu'en fait, il est entouré de plusieurs millions, non seulement sa garde rapprochée, mais les miliciens, toutes sortes de juges, d'enquêteurs, de gens du FSB. Et pour vous donner un exemple de à quel point ça pénètre dans la société civile, en ce moment, on est en train d'annoncer que cette action midi contre Poutine, qui est la manifestation silencieuse des opposants, c'est-à-dire qu'ils veulent tous aller au bulletin de vote à midi, on commence à dire dans les médias russes que ça pourrait être en lien avec des volontés extrémistes, ce qui va permettre d'arrêter massivement les gens, peut-être. En tout cas, la menace plane.
Vous l'évoquez, cette opposition. Quel est son état depuis la mort d'Alexeï Navalny ?
Je pense qu'elle se durcit tout en se scindant. C'est-à-dire que les personnes dans le pays qui pourraient encore agir sont neutralisées, donc j'imagine qu'elles partent dans la clandestinité comme autrefois. C'est difficile de savoir ce qui se passe au niveau vraiment justement souterrain. Par exemple, ces forces qui viennent attaquer les zones frontalières de la Russie.
Avec ces fameux drones.
Ce qui peut se passer en exil, mais évidemment que c'est un pays immense avec une énorme population qui par inertie continue à suivre ce président. Et cette opposition, c'est vraiment une petite fraction de la société. Elle se radicalise, mais elle est aussi de plus en plus impuissante.
Mais comment est-ce qu'on l'explique, ça, finalement ? On a du mal à comprendre l'état de la société russe. Elle soutient globalement Vladimir Poutine ou elle en a peur, finalement, de lui ?
La société russe, depuis toujours, c'est une pyramide, avec un 10% de gens éduqués et ouverts, qui ont des sources d'informations très diverses, qui sont très européens, et une grande masse de la population assez paupérisée, assez dispersée sur un territoire gigantesque et très manipulable. Donc, elle est déjà fractionnée, cette société, un peu comme partout dans le monde d'ailleurs, entre ruraux et urbains, sauf que c'est un pays gigantesque. N'oubliez pas que c'est un continent, ce pays-là. Cette société, il y avait ce contrat social qui avait été donné par Vladimir Poutine. Vous nous laissez tranquilles, nous on s'occupe du pays, on sait faire notre boulot, et puis vous, on s'occupe de vous assurer une certaine prospérité et la sécurité. Et maintenant, ce contrat social a été violé par la mobilisation, mais maintenant les gens, le moindre personne qui bouge une oreille est vraiment attaquée. La petite institutrice du fin fond de la Sibérie qui refuse de faire la propagande d'État, elle est licenciée. Et donc, oui, un mélange d'apathie et de terreur, en fait. Les gens font le dos rond, si vous voulez. Mais ils ont été habitués à ça, malheureusement, par les siècles et aussi par l'URSS. Et il y a ce fait que beaucoup de gens âgés regardent la télévision d'État et que c'est pas si facile quand tout un pays est en guerre de s'opposer à l'intérieur parce que ça crée un conflit moral. Donc il y a des gens qui finalement aussi tournent leur veste parce que c'est insupportable d'avoir pas d'alternative.
À vous entendre, j'ai presque l'impression qu'on aurait pu avoir cette conversation dans les années 80, quand il y avait encore l'Union soviétique, une population qui n'a pas de liberté, qui, voilà, la terreur qu'il y a avec, etc. Est-ce que c'est un peu comparable? Est-ce que la Russie, finalement, est revenue à ce qu'était l'URSS?
Oui et non, c'est une bonne idée de comparer, parce qu'on a comparé le régime de Vladimir Poutine à celui de Léonid Brejnev, dans la mesure où c'est aussi quelqu'un qui a assuré cette espèce d'éternité de son règne sur le prix élevé du pétrole, une certaine élévation du niveau de vie, et puis tous ces discours qui se répètent sans fin. Un des pronostics pour l'après-élection, c'est URSS 2.0, c'est-à-dire une forme renouvelée du URSS, avec quand même la technologie, les smartphones, et puis le commerce, enfin la société de consommation. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de différences, en particulier le fait qu'il n'y a pas un parti unique, que c'est quand même un dictateur, une personnalité qui tient le pouvoir dans ses mains. Par exemple, le régime ne lui survivra sans doute pas. Il a basé sa popularité sur cet esprit revanchard de tout ce qui avait été perdu par l'URSS.
La Grande Russie.
Ah oui, enfin, plutôt un projet impérial qui est totalement d'un autre siècle. C'est le dernier grand empire qui refuse de tourner la page de son histoire impériale.
Merci beaucoup Geneviève Piron, spécialiste du monde russe, chercheuse indépendante, d'avoir été sur Radio Lac ce matin.
Merci à vous.
Et une interview à retrouver en podcast et en vidéo sur radiolac.ch.